Samedi 1er avril.
De 13h30 à 15h30.
Et la radio des intercultes.
Sur Transistor.
Bien, il est 15h22 sur Transistor, alors 15h en théorie, mais ce n'est pas grave, nous n'avons que quelques petites minutes de retard. Il est temps tout de suite pour nous de continuer avec notre programme de 15h, donc le journal des bonnes nouvelles qui vous est présenté comme d'habitude par Nicolas et Alice.
Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des bonnes nouvelles, en direct de ces inter-UNS culturels de Lyon. Nous sommes là pour mettre un peu de bonne humeur en compagnie de Nicolas et de moi-même.
Bonjour Alice, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Eh ben, on va commencer avec l'histoire d'un ancien dealer de drogue gracié par Obama, puis on partira pour Londres après l'attentat de Westminster. On parlera ensuite d'initiatives personnelles qui font chaud au cœur entre un semi-voleur de bibliothèque et un donneur de sang, et on parlera écologie avec notre animal mignon du jour et une île autosuffisante. Et enfin, Nicolas vous parlera de Peggy Whitson, la première femme astronaute à commander la Station Spatiale Internationale.
Alors, à partir de 2014, Obama a commencé à lancer une grande vague de clémence présidentielle qu'il peut donner dans certaines conditions pour donner une seconde chance à toute une génération de prisonniers qui sont tombés sous le coup des lois des années 70-80 durant lesquelles la justice américaine lançait la « War on Drugs ». Conséquence, des peines extrêmement importantes, voire parfois disproportionnées, qui n'ont été remises au goût du jour par le Congrès qu'en 2010. Alors Obama a proposé des clémences pour des peines qui auraient été significativement moins importantes si elles avaient été prononcées donc après 2010. Au total, Obama a distribué 1515 commutations de peines, soit plus que ses 13 prédécesseurs à la Maison Blanche réunis. L'histoire du jour, la bonne nouvelle, c'est celle de James Patterson, condamné à 22 ans de prison en 2002 pour possession de cocaïne avec intention de la vendre. 22 ans, aujourd'hui, une telle accusation ne pourrait lui valoir que 3 ans de prison, au maximum. Et après plus de 14 ans derrière les barreaux, cet homme noir de 50 ans est enfin libre. Si sa couleur de peau et son casier judiciaire ne le privilégient pas dans la société américaine, il a pu remédier à son absence d'éducation grâce aux intervenants en prison qui lui ont appris à lire, à écrire, puis même à gérer une entreprise et jouer du piano. Après avoir été dans son enfance un orphelin drogué, puis dans sa jeunesse un dealer par nécessité, Patterson est désormais un repenti, un croyant, qui aime chanter du gospel. Il dit que ses liens avec la drogue sont loin derrière lui et il veut faire taire tous ceux qui disent qu'Obama a été trop clément et a relâché des dangereux criminels dans la nature. En tête de ses rabat-joie, un certain monsieur Trump, domicilié 1600 avenue de Pennsylvanie. Alors dangereux Patterson, ben non, apparemment, prisonnier modèle, il n'a pas commis une seule infraction au règlement en 14 ans de prison, il a désormais un travail, la volonté de bien faire et une famille qui le protège des tentations de la drogue.
Et on revient en Europe tout de suite après ça pour parler de l'attentat qui s'est déroulé devant Westminster à Londres. Il y a 10 jours, et des femmes musulmanes se sont rassemblées pour former une chaîne humaine sur le pont de Westminster afin de montrer leur solidarité avec les victimes et pour combattre surtout, entre autres en moins, les amalgames et le racisme que les terroristes veulent voir se développer en Angleterre, mais plus globalement en Europe et dans le monde occidental. L'événement organisé par le groupe Women's March on London a attiré de nombreuses participantes ainsi que des spectateurs de tous les milieux. Les femmes ont témoigné de leur émotion face à l'attentat et de leur attachement à leur ville, Londres. Elles ont aussi rappelé que l'islam condamne toute forme de violence et que l'attentat a aussi constitué une attaque envers la communauté musulmane. Les passants ont voulu participer à ce petit geste. La chaîne a été maintenue pendant 5 minutes alors que Big Ben sonnait 4 heures. Pour rappeler aussi que la vie continue à Londres et que tout le monde continuera d'aller où il voulait et de faire ce qu'il veut.
Une nouvelle ensuite beaucoup plus légère après la politique internationale et les attentats. Elle nous vient du Montana où la bibliothèque de Great Falls a reçu une lettre d'un voleur de livres qui confesse avoir emprunté pour une durée indéterminée le livre Le jeune homme, la mort et le temps, Bedtime Return en version originale, de Richard Matheson. Et il l'a emprunté en 1982. Mm-hmm. Alors 35 ans plus tard, le livre a été restauré par le voleur qui l'a emprunté très abîmé par les lecteurs successifs. Mais aussi et surtout, le livre est désormais dédicacé par l'auteur décédé il y a 4 ans en 2013. Alors dans la lettre à la bibliothèque, l'emprunteur mentionne qu'il a lu le livre au moins 25 fois et que le fait de savoir que le livre ne lui appartenait pas continuait de le turlupiner 35 ans après. Il a joint à la lettre un don de $200. Alors malgré ce don, la directrice de la bibliothèque a dit qu'elle ne cautionnait pas le vol du livre, mais que l'effort de l'emprunteur pour se faire pardonner était louable. Avis aux amateurs de science-fiction parmi vous, mais aussi de romans d'amour, le livre de Matheson, donc je rappelle Bedtime Return en VO, est une des œuvres majeures de l'un des plus grands auteurs de science-fiction, auteur également de Je suis une légende, et il en a également tiré le scénario du film Quelque part dans le temps.
Yes, I see. Good news, everyone!
Alors, on va parler un petit peu d'autre chose maintenant. On va parler de générosité et de don presque littéral de soi ici. On se doute bien que ce genre de thématique a toute sa place au Journal des Bonnes Nouvelles, et c'est ce dont il s'agit au Kansas avec cet homme de 87 ans qui a donné en tout plus de 121 litres de son sang, soit environ 259 pintes. Harold Faklam Jr., qui a donc donné son sang pendant 64 ans, déclare à ce sujet qu'il a commencé à donner son sang parce que, je cite, « c'était quelque chose qu'il pouvait faire ». N'ayant jamais servi dans l'armée, il raconte s'être toujours senti un petit peu coupable, notamment lors de la guerre de Corée, qui a provoqué l'enrôlement de nombreux de ses camarades de classe. Son père a été l'élément déclencheur, puisqu'il l'a encouragé à donner dès l'âge de 21 ans, âge où la permission des parents était encore nécessaire. Et le don de sang, c'est une histoire de famille. Chez lui, tout le monde participe et donne régulièrement son sang. Interrogé sur l'impact de ses dons sur sa vie, Harold Faklam Jr. réclame qu'il ne se pose pas la question de savoir combien de personnes son sang a pu sauver et qu'il s'agit avant tout de faire son possible à son niveau.
Alors apparemment, Alice, on arrive à mettre de bonne humeur beaucoup de gens puisque ça chante dans le couloir des intercus. Et je pense que c'est pour l'annonce de cette avant-dernière nouvelle, c'est le moment que vous attendiez toutes et tous. On va parler d'animaux mignons. Alors je vous propose le tigre. Oui, oui, un tigre, c'est mignon pour votre gouverne. C'est pas parce qu'il peut vous manger qu'il est pas mignon. Et si on a choisi de le mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est que en plus d'être beau et mignon, il s'agit d'une espèce en voie de disparition, notamment les tigres d'Indochine. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un nouveau groupe de ces animaux a été découvert dans l'un des parcs nationaux de la Thaïlande. Ce groupe, qui comporte au moins 6 bébés tigres, a été repéré par des caméras, entre autres installées par des associations qui luttent contre le braconnage et le trafic d'animaux exotiques. Cette nouvelle réjouit les scientifiques et les défenseurs de la faune et de la flore, car cette sous-espèce de tigre d'Indochine est si drastiquement menacée qu'on compte moins de 250 individus en tout et pour tout dans le monde. Cette bonne nouvelle en cache aussi une autre, la pertinence des mesures prises par la Thaïlande et du travail de toutes les associations et ONG. Par exemple, ce même parc abrite le seul autre groupe reproducteur connu du pays, et le directeur du parc, Songtam Suksawang, attribue en grande partie cette réussite aux efforts mis en place contre le braconnage et à la préservation de l'habitat de ces tigres d'Indochine.
Et toujours du côté de l'environnement, je vais vous parler d'une petite île écossaise, l'île de Haig, très au nord et très isolée, et qui depuis 2008 est autosuffisante en électricité. Bon, alors bien sûr, le nombre d'habitants sur l'île n'est pas très élevé, on parle là d'une île qui aujourd'hui abrite une centaine d'habitants, mais une centaine d'habitants dont l'île produit les ressources en électricité nécessaires. Le projet est né parce que l'île, qui dépendait avant de l'État et du service de distribution de l'électricité pour être alimentée, se retrouvait régulièrement privée de courant. John Booth, qui est à l'origine de cette autosuffisante, de cette autosuffisante a aidé à concevoir et à mettre en place les appareils utilisés et à décider du lieu où les implanter. Donc on a ainsi des panneaux solaires qui produisent une grande quantité d'énergie en été au vu de la durée des journées, parce qu'étant donné que l'île est très au nord, les journées sont extrêmement longues en été. Et il y a aussi des petits générateurs hydroélectriques qui alimentent toute l'île. Et il arrive même parfois que l'île soit en surproduction, donc ça fait quand même plaisir de voir que c'est possible. Et bon, bien sûr, tout n'est pas idéal. La production sert pour le minimum et correspond à peu près à la quantité d'énergie nécessaire pour faire tourner une lessive et faire bouillir de l'eau en même temps. Donc on est loin des standards urbains. Mais pourtant, c'est une démarche qui reste très intéressante parce que effectivement, déjà, elle est assez responsable, elle profite de la géographie du lieu, et puis surtout, elle démontre qu'une autosuffisance minimum en énergie est possible, et c'est particulièrement une bonne nouvelle pour les zones délaissées ou isolées à travers le monde, et notamment dans les pays en développement.
Alors, merci Alice. Une fois n'est pas coutume, on va faire une chronique très courte pour essayer de compenser toutes ces aléas météorologiques qui n'ont pas entamé notre bonne humeur. Et je vous propose de partir très vite vers les étoiles en compagnie de Madame Peggy Whitson. Alors, ce nom vous est peut-être inconnu, mais cette dame, eh bien, c'est la commandante de la Station Spatiale Internationale. Cette astronaute américaine qui est également deuxième mais va bientôt arriver en tête du classement concernant le temps passé passé dans l'espace en fait parmi les astronautes féminines de l'histoire, eh bien cette madame est donc en ce moment dans la Station Spatiale Internationale et elle fait tout fonctionner, par exemple dernière nouvelle en date, la réparation d'un système qui n'arrivait pas à se fixer, qui a été en fait nettoyé avec une brosse à dents, puisque dans l'espace, il est très difficile de nettoyer sans l'aide de la gravité ou même du vent ou de l'air. Donc on a une petite pensée pour Madame Whitson qui est en ce moment en train de nous regarder de là-haut et qui... et c'est une très bonne nouvelle pour la... C'est une très bonne nouvelle pour l'humanité, voilà, comme on me souffle dans le public, pour l'égalité et la représentation des hommes et des femmes dans l'espace, au-delà de notre atmosphère.
Eh bien, merci Nicolas. Avant de rendre l'antenne, on vous rappelle quand même qu'il reste une excellente nouvelle qu'on ne vous a pas encore transmise. Dans 12 jours, le jeudi 13 avril, c'est la journée de la radio pour Transistor. On vous parlera tout au long de la journée, au fil de 11 heures de direct, en Théâtre Cantor ou sur transistor.fr.